Eh bien, donc nous allons poursuivre nous allons remonter encore un peu le temps avec l'intervention donc de Catherine Leteuf, qui est guide conférencière, spécialiste des constructions en béton armé, habitante de Mantes de longue date. Elle va revenir sur la présence d'Henri Longepierre, qui est revenu à Mantes en 2009 à l'occasion de la célébration des 50 ans du Valfouré.
Dans la continuité de ce qu'a présenté Roselyne, moi j'ai fait donc une petite présentation autour de l'interview de Monsieur Henri Longepierre, qui a pu revenir sur Mantes-la-Jolie en 2009. Et voilà, juste les trois photographies que j'ai positionnées ici vous montrent un peu les trois acteurs qui... alors, vous allez voir pourquoi je dis trois. Donc, on a le maire Jean-Paul David, que vous avez à droite en salle du conseil municipal, qui est devant un plan présentant donc... l'extension de Mantes-la-Jolie vers l'ouest sur ce quartier que moi je qualifie de quartier moderne, de la ZUP du Valfouré étant donc... la dernière fois, Roselyne, tu avais un petit peu insisté en disant que l'extension de Mantes était dans les cartons sans être une ZUP. Hein, et qu'elle est devenue ZUP parce que cette procédure administrative a existé. Mais je ne sais pas du coup si tu l'as évoqué, ZUP, l'extension de Mantes à l'ouest était un projet de ville nouvelle. Voilà, donc les villes nouvelles, il y avait 9 villes nouvelles pensées et elles n'ont pas toutes été construites. Donc celles qui ont été construites, c'est Cergy-Pontoise, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry, Marne-la-Vallée. Oui, mais on n'est plus dans l'Île-de-France. Voilà. Donc c'est un projet qui était développé, parce que ça a été publié dans la revue Urbanisme aussi, le projet de la ville nouvelle de Mantes-la-Jolie, s'appelait Mantes-Ouest, mais c'était bien plus vaste que le quartier du Valfouré. Donc le quartier du Valfouré est sur l'ancienne commune de Gassicourt, comme on l'a vu, et le projet de ville nouvelle débordait sur les communes plus au sud, c'est-à-dire Magnanville, Buchelay, ça englobait Mantes-la-Ville. L'idée étant vraiment de reconfigurer complètement cette ville pour en faire une ville de 200 000 habitants. Voilà. Bon, ah oui, il y a eu plein d'étapes. En 1900, donc ça, là on est en 65, en 1969, quand les villes nouvelles sont lancé avec un gros rouleau compresseur, là aussi, Mantes n'est plus dans le groupe. Ont été aussi exclus la ville de Creil, qui était configurée pareil que Mantes. Donc, alors, on n'a pas eu la ville nouvelle, on n'a pas eu la fabrique, en fait, d'une urbanité qui touchait là 3-4 communes, et on a eu quelque chose à l'échelle communal. Et Jean-Paul David est en salle de conseil à droite. Au centre, vous avez une autre photographie. Alors, elles sont très rares, hein, les photographies de Raymond Lopez, je le dis. Hein. Une photographie donc de Raymond Lopez, qui est là aussi devant un plan, un avant-projet pour le Valfouré. Et c'est une photographie qui m'a été donnée par Monsieur Longepierre. Je fais une petite aparté aussi. C'est vraiment extraordinaire le travail que Roselyne a pu faire sur Raymond Lopez, puisque c'est un architecte qui avait une énorme agence et qui est décédé assez vite, en 66, et ses archives ont été éparpillées, voire jetées. Donc il n'y a pas de travail historique fait sur l'agence Lopez. Voilà, petite parenthèse, excusez-moi. Et la troisième photographie, donc nous avons Jean-Paul David, le grand monsieur, costume cravate. Nous avons un monsieur plus petit avec un nœud papillon, et je vous présente donc Henri Longepierre. Donc je viens d'apprendre qu'il s'appelait De Longepierre au départ. C'est un monsieur qui est né en 1929 et qui lui va être formé non pas à l'école des Beaux-Arts, hein, donc ça c'était un peu la voie royale. Il y avait une seconde voie qui a formé beaucoup d'architectes un peu plus pragmatiques, un peu plus proches du corps de métier des ingénieurs, qui était l'école spéciale d'architecture, l'ESA. Qui existe toujours. Aujourd'hui, vous n'avez plus l'école des Beaux-Arts, puisque ce sont les écoles d'architecture qui sont réparties. Voilà, sur Paris, il y en a plusieurs, il n'y en a plus qu'une comme avant. Et l'école spéciale d'architecture est toujours une école avec un côté un peu plus technique. Et Henri Longepierre est élève, donc je crois qu'il termine en 52, il est diplômé en 52, et un de ses professeurs, c'est Raymond Lopez, parce que en tant que acteur d'une modernité, je crois qu'il a enseigné aussi à l'École nationale des ponts et chaussées. Enfin, c'était normal vu son statut de quand même grand chantre de la modernité. C'était normal qu'il aille enseigner dans plusieurs établissements formant les générations futures d'architectes. Alors, le troisième acteur qui n'est pas sur les photographies, moi j'aurais voulu, mais je ne l'ai pas, et je me tourne vers Michel Sevin, j'aurais voulu une photo de Monsieur Curé, qui était le directeur de la CERM. Alors, pourquoi je faisais un petit peu l'article en disant on n'a pas eu la ville nouvelle, donc voilà, on n'a pas eu la ville nouvelle, mais pour faire le quartier du Val-Fouré, c'était pas la puissance communale, même en 1955, en 1960, c'était pas la force communale ne pouvait pas construire un tel quartier. C'était donc un autre organisme, ce qu'on appelle un établissement mixte avec des fonds privés et des fonds publics, qui s'appelait la CERM, la Société d'équipement de la région mantaise. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, attendez, je vais revenir. Là, puisque j'étais sur la CERM, voilà, je vais revenir après. Donc, la CERM, là encore, j'insiste un petit peu. Aujourd'hui, les archives de cet organisme sont aux archives départementales qui sont à Montigny-le-Bretonneux. Vous avez 570 dossiers. Donc, le dépouillement est très long et très, très intéressant. Là, vous avez la plaquette qui a été éditée en 1969, c'est-à-dire 10 ans. Parce qu'on a dit, donc la ZUP est créée en 59 et dans le même trimestre, on a la création de la CERM. Et donc la CERM, vous voyez, elle a un champ d'action qui dépasse la commune de Mantes-la-Jolie, puisqu'on lui doit donc le Val-Fouré, la zone d'activité industrielle de Limay, Porcheville, Issou, Gargenville, Guitrancourt, le village d'artistes et d'artisans d'art qui ne verra pas le jour, une zone d'habitation pavillonnaire sur Buchelet, qui verra le jour, une zone industrielle de Buchelet, le bassin de Gassicourt, quartier Henri IV, donc la ZAC, parce qu'après c'est la ZAC d'Henri IV, et le plan d'eau d'Aviron et base de loisirs. Alors, la base de loisirs, on n'a pas eu la base de loisirs qu'on aurait pu imaginer d'après d'autres plans. Donc voilà, je reviens en arrière, je vous la montre, la base de loisirs. Ce dessin, alors moi je le trouve intéressant, c'est un dessin réalisé par Henri Longepierre. Il est très intéressant parce qu'il nous montre la ville de l'autre côté. Et on est tout à fait dans les principes de Raymond Lopez. C'est-à-dire que il nous montre au premier plan, la modernité, voilà une ville qui va avoir des rues à angle droit, fini les rues, fini les trottoirs, fini l'alignement des bâtiments sur la rue ancienne, le tracé que vous devinez, vous voyez au fond, vous voyez une certaine densité. Après, on passe de l'autre côté sur Limay, hein, vous voyez aussi Limay et Mantes, la ville ancienne, ont leur petite rue. Enfin, on est dans l'héritage du Moyen-Âge. Et donc, en plus, vous voyez, au tout premier plan, il y a quelque chose qui n'existe pas, un autre pont, là, qui franchit la Seine, qui, donc, on est sur Denmont en face, hein, à peu près. Et là, alors je fais une petite aparté. Ici, là, je peux pas vous faire le gros plan, mais là, c'était une base de loisirs avec un port de plaisance, un night club, un camping, un hôtel de luxe. Enfin voilà, c'était les projets dans les années 60, 58, 59, voilà. Alors ce dessin, il a été publié dans Urbanisme, mais c'est pas le même. Voilà, donc aussi c'était pour vous montrer les talents de dessinateur d'Henri Longepierre. Hein. Voilà, il est un architecte, ça sait, même encore aujourd'hui, ça sait dessiner. Hein. Alors, la diapositive suivante, ça rebondit sur le plan de Roselyne, c'est la maquette. Donc, c'est la maquette. Il y en a eu deux, on en est sûr, parce qu'on a retrouvé des photos. Celle-ci, c'est une maquette qui a disparu aujourd'hui, dont on n'a que des photographies. Ça nous montre, en volume, hein, ça nous montre exactement ce que tu as expliqué, beaucoup de constructions en hauteur pour libérer de l'espace vert au pied des immeubles. Ça nous montre les derniers quartiers les plus proches de la Seine avec des immeubles qui sont tout à fait ceux qui sont ici. Ils sont écartés. Il y a beaucoup d'espaces verts autour. Et puis, alors, ce que j'aime bien aussi, c'est ça vous montre ici un cheminement qui est marqué d'arbres. Alors, il existe encore. Il est ici, il existe encore, là. C'est ce qu'on appelle le mêle piétonnier, la promenade plantée, la promenade verte. Et il existe aussi ici, en partie. Là, il existe toujours, sauf que les arbres sont un petit peu rachitiques ou un peu... on les voit moins. Mais donc ça rebondit par rapport à ce que tu disais. Si on sépare les piétons ont leur propre chemin pour pas être renversés par les voitures. Parce que dans ces années-là, la voiture est un danger.
La fameuse coulée verte qui se situe à proximité de Chopin.
Oui, oui, oui. Oui, 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 c'est vrai. Voilà, donc là, j'avais reparlé de la Serme. Un petit clin d'œil. Donc, dans les années 90, l'association d'histoire locale qui s'appelle le groupe de recherche et d'édition Mantes, le GREM, va faire un énorme travail. Entre nous, on l'appelle le gros livre rouge. Un énorme travail, et notamment sur le Val-Fouré, il y a le dessin de ce plan. Alors, je ne sais pas, Michel, si vous avez le nom de l'auteur, mais moi, moi, j'admire ce plan qui, avec des couleurs, a fait un acte de pédagogie pour expliquer les différents quartiers. Là, on voit aussi l'école, ce qu'on a appelé l'école tapis, hein, qui est l'école Colette Rousseau, qui est donc la première école primaire et maternelle qui va ouvrir au Val-Fouré. On est en 64, la première rentrée c'est 64, et c'est une réalisation d'Henri Longepierre. Alors, je continue. Ah ben voilà, justement, donc c'est le moment de vous passer. Alors, cette vidéo, aujourd'hui, vous pouvez la voir sur YouTube. Il suffit de taper Henri Longepierre et vous accédez à cette vidéo. On va la regarder au début ensemble, et puis après, on va pas la regarder complètement pour garder du temps, pour un petit peu parler de la suite, et puis laisser le temps à des questions, à des échanges. Pour la suite, vous pouvez intégralement regarder ce documentaire. Il fait 15 minutes. On a regardé à peu près la moitié. L'idée, c'était de vous montrer un petit peu la personnalité d'Henri Longepierre. Ce que j'ai pas dit, c'est que donc Henri Longepierre a d'abord été salarié donc je vous ai dit que ça avait été un de ses étudiants, et ensuite il est devenu salarié de l'agence, la grande agence, et il a pris du galon, hein, en quelque sorte, puisqu'il est devenu associé à Lopez. Et donc, dans l'agence, il y avait comme trois sous-agences, puisqu'il y avait une partie de l'agence qui s'occupait, par exemple, du quartier Paris-Beaugrenelle. Alors, je crois que c'était avec Michel Aulet. Une partie qui s'occupait du Val-Fouré avec Henri Longepierre. Et il y avait une autre partie, encore, je me rappelle qu'il avait fait trois, alors je ne vais pas me rappeler qui était le troisième architecte associé. Et en fait, Raymond Lopez œuvrait, lui, pour aller chercher les nouvelles commandes. Ce qui se faisait très, très souvent dans ces époques-là, il y avait deux grandes personnalités. L'un ayant beaucoup d'entre-gens, étant très proche des cercles du pouvoir aussi, hein, et puis un autre architecte associé qui était plus l'exécuteur. Et d'ailleurs, la question reste toujours un petit peu en suspens. Comment est-ce que Jean-Paul David et Raymond Lopez se sont rencontrés? Ça reste un petit peu... Il y a des hypothèses, hein, mais ça s'est fait très tôt. Hein, ça s'est fait,
voilà.
Ah, ouais.
Avant même, il a été chargé par la municipalité en 1943 de faire un plan d'embellissement de Mantes. Et donc après, il a été chargé de la reconstruction. Voilà, c'est comme ça.
Ouais. Voilà, mais après, on ne sait pas quel est le cercle, le salon, un peu où est-ce qu'ils se sont rencontrés en premier. Donc voilà. Et alors, quand Lopez décède, je crois que c'est février 66, et il y a un arrêté municipal assez rapidement, j'ai noté quelque part, qui nomme, donc du coup Lopez était architecte en chef de la ZUP, et c'est Henri Longepierre qui est devenu architecte en chef à son tour, quelques temps après, je vais retrouver la date exacte. Et donc ça on en a parlé. Donc ça, ce sont quelques photographies, toujours le fond Bertin, hein, qui est aux archives municipales, et Mantes-la-Jolie a beaucoup beaucoup de chance d'avoir ce fond, puisque Bertin, c'est surtout Claude Bertin, le fils, et puis Félix, Jean-Félix, le père, qui ont beaucoup photographié. Et n'oublions pas que Jean-Félix Bertin avait son permis de conduire les avions. Donc Bertin père était membre du club d'aviation qui était installé avant le site du Val-Fouré. Donc il connaissait de toute façon très bien le territoire avant, et ça a permis de faire des photos extraordinaires. Donc là, on est au sol, hein, c'est pas une photo aérienne. Là, je crois que c'est une autre photographie aussi de Claude Bertin, et on est dans une école maternelle. On est dans la cour de récréation, et j'ai voulu mettre cette photographie parce que Jean-Paul David, une autre personnalité moderne, artiste moderne, qu'il a pu faire venir sur la région, c'est Monsieur Milovanovic, qui est décédé aujourd'hui. On a sa femme qui est ici. Et donc, cette œuvre qui fait partie de ce qu'on appelle le 1% artistique des établissements scolaires, existe encore. L'école a été démolie. C'est sur le site du futur collège numérique, c'est comme ça qu'on dit. Enfin,
le collège
innovant qui doit prendre place donc sur ce qui est aujourd'hui une terre non construite, une friche, enfin qui est très passante, parce que c'est un lieu de passage entre les quartiers des peintres et puis le centre commercial de. Et voilà, superbe transition. Le centre commercial principal, puisque Longepierre l'a bien expliqué, hein, l'idée c'est d'avoir dans chaque quartier un centre commercial secondaire. Donc le premier c'est Lavoisier, c'est le tout premier centre commercial du Val-Fouré qui se trouve de l'autre côté de la Nationale 13. Et le principal, donc c'est celui qui est représenté ici avec le magasin emblématique du Parunis. Et ce que je veux vous faire remarquer aussi, c'est la qualité du sol et ce petit monticule qui ressemble à un abri de bus sur lequel vous pouvez lire en lettres verticales Val Center. Donc là, on est aussi sur une appellation à l'américaine qui est très Raymond Lopez, hein, parce que Raymond Lopez, il s'est beaucoup inspiré de la ville à l'américaine. Voilà, c'est pour vous montrer que là, on est donc sur un centre commercial avec un magasin qui était l'équivalent des Galeries Lafayette, qui avait donc un étage pour... la mode, un étage pour l'alimentation en bas, et au premier étage, il y avait l'ameublement. Voilà. Et un escalator, ce qui était une grande nouveauté, c'est le premier de la région. Donc, voilà. Et donc, un sol qui est très... très réfléchi. Henri Longepierre a travaillé le dessin avec un artisan, artiste, enfin, il n'est pas artiste, il a travaillé en utilisant donc différents gris, une pierre qui était donc pensée au départ comme uniquement pour les piétons, puisqu'on était toujours dans la séparation voiture-piéton. Les voitures, elles sont en extérieur et en souterrain, d'où ce que j'ai appelé comme un petit abribus, qui en fait correspond à l'escalier qui mène au parking souterrain, au sous-sol. Et donc ça s'appelle dalle parce que ça fonctionne comme une dalle, comme la dalle à la Défense. Aujourd'hui, vous n'avez pas de voiture sur la dalle de la Défense. Ici, comme il y a eu l'organisation d'un marché forain très rapidement, les camions qui se garaient d'abord en bas, qui montaient leurs marchandises, ont cessé de monter leurs marchandises en ayant les autorisations de venir sur ce sol. Ce sol n'ayant pas été calculé pour des véhicules. C'est cassé, donc après vous avez des infiltrations, vous avez toutes sortes de problèmes qui découlent. Et donc aujourd'hui, si on fait une fouille archéologique et si on soulève plusieurs couches qui ont recouvert ce carrelage, on peut le retrouver. Tout comme le petit Val Center, il est masqué aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison qu'il ait complètement disparu puisqu'on n'a pas cassé cet ancien accès au parking. Voilà. Alors après, les autres réalisations de Longepierre, Roselyne en a parlé, le château d'eau en métal, inspiration les États-Unis. Ça, c'est dans les archives de Mantes. On a un catalogue de différents châteaux d'eau métalliques qui ont été construits aux États-Unis. L'école au milieu, donc c'est l'école Tapi, l'école Colette Rousseau, donc Colette pour les filles, Rousseau pour les garçons, avec cette alternance entre des salles de cours et des petits patios, un patio servant pour deux salles de classe. C'était un principe pédagogique pour que les enfants qui venaient de la campagne ne perdent pas le sens de la terre et l'idée de une graine, ça pousse, ça met tant de jours à pousser. Et puis donc les immeubles de la SIC. Donc la SIC, c'était dans les années 60-70, ça dépendait de la Caisse des dépôts et consignations. C'est un énorme c'est un énorme constructeur promoteur immobilier. C'est souvent des appartements de grande qualité avec des finitions et des tailles de logements très 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 importantes. Et donc aujourd'hui les tours sont toujours là. C'est la tour Neptune que vous voyez à droite, et un petit peu en face vous avez l'autre tour Jupiter. Voilà, donc j'ai retrouvé, Monsieur Bas, ici présent, connaît tout ça par cœur. Moi, je suis obligée de regarder les notes. Donc, la première tour, c'est 1969-72 pour les années de construction. Et la deuxième, c'est 75-76. Voilà. Et puis, une autre réalisation d'Henri Longepierre, c'est une maison des jeunes qui était construite dans le premier quartier, le quartier des Inventeurs. C'est la pagode. C'est une construction qui est surnommée comme ça parce qu'elle a une forme, la toiture a la forme un peu d'un temple chinois dit pagode. C'est une construction très simple qui s'appuyait sur, au lieu que ce soit des poteaux à l'intérieur, c'était des poteaux rejetés sur le pourtour qui étaient des triangles de béton armés, très soignés avec, c'était des bétons bruts de décoffrage mais avec un coffrage très soigné. Et donc la toiture, on le voit sur cette photographie, permettait un aménagement totalement libre à l'intérieur. Elle était faite en lamellé-collé, donc on est en 67-68, c'est les débuts de ce type de charpente. Et ensuite, donc les parois, les façades, ce sont des panneaux de verre et qui auraient pu complètement être autre chose. Je dis ça parce que ce bâtiment n'existe plus, il est démoli en 2015. Il était assez facile à démolir parce que de conception technique très simple. Mais voilà, on aurait pu faire complètement autre chose, ce qui n'a pas été le choix du propriétaire, à savoir la ville. Les autres réalisations, donc on en a parlé, l'agrandissement de l'hôtel de ville. Alors je sais bien que les plans mentionnent qu'il s'agit d'un agrandissement réalisé par Rémy Lopez, mais a priori c'est quand même surtout et essentiellement Henri Longepierre. Il y a eu un aménagement aussi intérieur, hein, tout l'aménagement de l'escalier sur la partie récente, hein, l'escalier, la salle des mariages, tout ça, tout le design, tous les mobiliers ont été choisis avec l'agence donc Longepierre là pour le coup. Et puis une photographie de l'intérieur de la bibliothèque municipale qui s'appelle aujourd'hui Duhamel, qui était la seule bibliothèque municipale en 66 quand elle est inaugurée et qui a été l'objet de nombreuses visites professionnelles puisqu'elle a été visitée donc pour savoir comment faire une bibliothèque moderne adaptée à plusieurs publics. Et elle a ouvert une section jeunesse une section jeunesse dans les toutes premières. 74 me dit Abiba. Bon, voilà, je reviens pas. Ça, c'est le quartier Paris-Beaugrenelle qui est conçu vraiment de façon très contemporaine au quartier du Val-Fouré. Et alors, je terminerai là-dessus sur deux autres réalisations d'Henri Longepierre, puisqu'il a été architecte conseil pour Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, il y a eu le même principe qu'ici, c'est-à-dire une extension vers l'ouest de la ville ancienne. Donc vous voyez là sur ce schéma l'emprise d'Aix en 1960 et les quartiers qui quartier ZUP pour le premier. Jade Bouffant, donc on est sur la réalisation de 5000 logements entre 75 et 83. Et le quartier d'Ancagnan, qui lui est... alors je me suis trompée, là, c'est Ancagnan, c'est encore une ZUP, et c'est Jade Bouffant qui est une ZAC. La ZUP d'Ancagnan, c'est 4000 logements de 1966 à 1982. Voilà, après, on est dans un tout autre secteur géographique, mais l'urbanisme a des points communs avec celui de Mantes-la-Jolie. Je vous remercie de votre attention et je remercie toutes et tous ceux qui m'ont aidé pour réaliser cette intervention. Merci.